Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allez, à votre santé, à votre bonne santé. Bonjour, bienvenue. Ça fait plaisir de vous retrouver. Le vendredi, je vous retrouve avec le docteur Delabo. Bonjour, docteur Delabo.
Bonjour, Philippe. Bonjour, tout le monde. Comment allez-vous, les uns et les autres?
Très bien, docteur Delabo. Ça fait plaisir de vous voir, hein, de vous entendre.
Ah oui, et puis de me voir. Ce matin, j'ai un joli petit peu pull col roulé avec bleu ciel comme mes yeux.
Ce qui est bien, c'est que les compliments, c'est mieux si vous vous les faites, parce que si vous attendez qu'on vous les fasse, vous êtes mal barré.
C'est ce que dit toutes mes fans à l'entrée ici dans le studio.
Vous êtes beau dans votre
doc, qu'est-ce que t'es beau. J'ai dit, arrêtez les filles.
Moi, je pense que c'est des filles qui voulaient vous gratter un livre, ça.
Ça, c'est possible.
Oui. Vous voyez,
t'as réussi à m'en gratter deux, alors te plains pas.
C'est pas vrai, docteur Delabo, je vous ai gratté un livre, si on peut parler comme ça, pour l'imam Abdelali Mamoun et pour Fouzia. Donc,
je veux venir en aide à Fouzia parce qu'elle a bien du mal à gérer son mec.
Ça, c'est vrai. Voilà, le livre est sorti cette semaine. Ça s'appelle Prévenir et traiter le diabète grâce à la chrononutrition. On va en parler. On va consacrer notre mois au diabète, docteur Delabo. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'attendait, ce livre. Mais nous démarrons par votre semaine santé, dès que vous êtes remonté sur votre tabouret.
Ah bah oui,
et on démarre avec lundi.
Il était fait pour un géant, mais moi je suis un nain de jardin, hein, faut pas l'oublier.
Vous avez les pieds qui ne touchent pas par terre.
Lundi,
7 médicaments, docteur Delabo, à ne pas prendre périmés.
Oui, 7 médicaments, pas 17. Hein. Je lis dans une liste proposée par une journaliste validée par un pharmacien, les antibiotiques, les médicaments hypertenseurs, l'antihypertenseur, la pilule, l'insuline, les sirops, et oui les sirops, les colires, et enfin les pommades. Bon, tout est vrai. Mais malheureusement, il faut bien comprendre qu'en fait, tout médicament périmé devient dangereux au bout d'un temps variable de péremption. Ne croyez pas qu'il y a 7 médicaments et que vous pouvez faire n'importe quoi avec les autres. Désolé, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et surtout, je regrette qu'on ait oublié dans la liste l'aspirine en comprimé qui est le plus dangereux de tous. J'ai eu un mort dans ma clientèle. En effet, la prise de comprimé d'aspirine périmée est potentiellement mortelle et malheureusement, comme je viens de vous le dire, j'en ai eu la preuve. Conclusion, allez porter chez votre pharmacien habituel vos médicaments périmés avant qu'ils vous arrivent en les prenant, des aventures qui peuvent être hélas pour vous sans retour.
Alors, vous savez que c'est comme les produits hein, qu'on achète, les yaourts, les...
Ce sont forcément des infections. Tandis que dans les produits chimiques, t'as malheureusement une action qui peut être sur le cerveau, qui peut être... C'est autre chose, c'est hyper dangereux. Tu chopes une infection parce que t'as bouffé un yaourt périmé ou parce que t'as mangé une viande périmée, un traitement antibiotique correct te sauve la vie. Là, c'est foutu. C'est foutu, on peut pas te tirer l'affaire. C'est un poison.
Donc c'est non, on ne prend pas de médicaments dont la date est dépassée.
Oui, parce que certains médicaments, et les pharmaciens le savent, peuvent être utilisés encore quelques temps, mais pas tous, donc c'est vraiment la loterie, c'est au hasard Balthazar, vous savez pas ce qui va vous arriver en prenant un médicament périmé.
Mardi, docteur Delabo, 8 boissons détox pour nettoyer l'organisme.
Ah, il y en a pour lesquelles je suis d'accord. Bon, tout simplement parce que 4 d'entre elles améliorent le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. Le desmodium, le fumeterre, le chardon-marie, l'artichaut, ce sont tous des trucs qu'il y a dans les compléments alimentaires que je conseille. 2 autres parce qu'elles améliorent le fonctionnement de l'intestin, le fenouil doux et l'anivers. Je ne recommande absolument pas les 2 dernières parce que avaler du jus de citron enlevé ou boire du vinaigre avec de l'eau n'a d'intérêt que si on souffre d'un manque d'acidité dans l'estomac. C'est fréquent chez les gens âgés. On pourra alors proposer cette thérapeutique aux personnes n'ayant plus assez d'acidité dans l'estomac pour pouvoir digérer correctement. Sinon, ça sert à fichtre rien. Mettez-vous bien ça dans le crâne.
Mercredi, 10 organes sans lesquels on peut continuer à vivre.
Ah oui, ça c'est une liste qui m'a bien plu là. Il y en a 3 dont on peut se... Je vois Philippe qui commence déjà.
Non, parce que je sais que vous vous êtes séparé d'un de vos amis récemment et vous continuez à vivre.
C'est totalement faux, il est mauvais comme la gale. Soyons francs, dans la liste des 10, il y en a 3 dont on peut se passer sans en ressentir le moins du monde la perte, la thyroïde et la rate.
Bien.
Il y en a 3 sans lesquels la vie devient plus ou moins inconfortable, voire même pénible, l'ablation de l'anus, de la vessie, du côlon, de l'estomac. Ça, c'est pas marrant du tout, mais on peut survivre. Et puis, il y a ceux qui vont par pair, il y en a 2. Ce qui permet d'en supprimer un sans mourir, les reins et les poumons. Bon, les testicules aussi d'ailleurs.
Mais on vous avait pas demandé.
Les ovaires aussi.
On vous avait pas demandé.
Les organes doubles. Il y a 2 ovaires, il y a 2 testicules.
Bien.
Enfin, la perte des deux qui peuvent disparaître sans dommage corporel, mais qui rendent très très malheureux les hommes ou les femmes, ou les deux, suivant l'usage qu'ils en faisaient avant, l'utérus et le pénis.
Sans commentaire. Je dis des statines dangereuses pour la santé, docteur Delabeau.
Non, les statines seraient-elles dangereuses pour la santé? C'est reparti pour la grande campagne contre les statines, avec bien entendu l'anathème jeté par un confrère cardiologue qui devrait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire n'importe quoi et faire de la cardiologie avant de se mêler de faire de la diététique et de la nutrition. Soyons clairs, les statines, comme tous les médicaments particulièrement efficaces, ont des effets secondaires qui peuvent être nocifs, voire même dangereux. C'est le cas de tous les médicaments. Mais depuis leur apparition, elles ont sauvé des millions de vies. Alors, à vous de faire le choix si vous avez besoin de recourir à ce médicament. Ce qui me fâche vraiment, c'est qu'on continue à prescrire des fibrates qui sont peu ou pas efficaces contre l'hypercholestérolémie et dont l'usage prolongé est bien plus dangereux pour le foie que les statines. Alors vous allez me dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, les autorités sanitaires s'en offusquent pas. Ah bien sûr, c'est un médicament beaucoup moins cher. C'est pourquoi on le voit encore prescrit par des médecins, craignant que leur profil de prescription attire les foudres de la sécu s'ils prescrivent des statines. Voilà où on en est.
Vendredi, un sujet très sérieux. Que faire pour soulager une angine?
Dans la liste que je lis pour soulager une angine, il y a vraiment de bien sérieux. En revanche, je ne sais pas si je dois rire ou me fâcher en lisant la conclusion de l'article, mais est-ce bien une angine microbienne? On a peut-être dû l'écrire d'abord avant de dire ça. Vous ne croyez pas qu'on aurait dû commencer par là? Car si c'est une angine virale, les différents moyens bonnes femmes énumérés ne pourront pas faire de mal. En revanche, si c'est une angine microbienne, il sera absolument nécessaire de recourir aux antibiotiques sous peine de complications qui peuvent être graves, surtout au niveau cardiaque. Beaucoup d'affections cardiaques viennent d'une angine non soignée ou mal soignée. Sachant qu'une angine virale, celle avec des virus, se guérit tout simplement avec une simple prise d'aspirine, sauf chez les femmes ayant toujours une vie génitale, parce que ça pose des problèmes.
Et on termine avec samedi des carottes pour éviter l'Alzheimer.
Ça serait vraiment pas de chance pour moi, car le carotène me perturbe l'intestin. Est majeur de manger des carottes cuites. Je peux manger des carottes que
crues.
Sachez ça, si vous êtes un petit peu bizarre après avoir mangé des carottes cuites, vous inquiétez pas, ça veut simplement dire que vous supportez pas le carotène. Auquel cas, si vous les mangez crues, et j'adore manger des carottes crues, ça ne gêne pas parce que le carotène ne passe pas dans le sang. Voilà, mais en fait je suis pas si malheureux que ça, parce que c'est pas la première fois qu'on raconte n'importe quoi au sujet de cette maladie dont on vient de découvrir en fait qu'elle n'est ni génétique ni liée au vieillissement cérébral, mais qu'il s'agit d'un processus infectieux. Donc l'histoire des carottes, c'est un peu débile. Laissons donc les carottes aux lapins ou aux hommes qui se prennent pour des lapins.
Bien, docteur Delabeau, votre livre « Prévenir et traiter le diabète grâce à la chrononutrition » vient de paraître aux éditions Albin Michel. Est-ce qu'on peut guérir d'un diabète? Et de quel diabète peut-on guérir, sérieusement?
Alors,
docteur Delabeau,
on peut guérir d'un diabète fonctionnel, puisque c'est nous qui l'avons créé. On peut obtenir une rémission définitive d'un diabète organique. Vous ne pourrez pas guérir un diabète organique. Mais vous pouvez vous débarrasser à jamais d'un diabète fonctionnel. Attention.
Alors, qu'est-ce que vous appelez expliquez-nous.
Un diabète fonctionnel, c'est le diabète, ce qu'on appelle le diabète gras. C'est vous qui l'avez créé. Le diabète. Alors, ça peut révéler un diabète génétique. Auquel cas, vous serez en rémission permanente. Moi, je suis en rémission permanente d'hypercholestérolémie, mais je sais très bien qu'à la moindre bêtise, immédiatement, mon cholestérol remonte et je suis en danger. Donc, je fais attention. Mais s'il s'agit uniquement de grosses erreurs alimentaires sur quelqu'un dont le diabète disparaît aussi vite qu'il est venu, chez les femmes enceintes, Dieu merci, ça disparaît presque à tous les coups, sauf chez celles qui ont génétiquement la possibilité de faire du diabète. Donc vous voyez, messieurs et mesdames, vous êtes tous concernés. Alors, comment on sait ça? Eh bien, c'est très simple. Si vous faites un problème, je l'écris dans préserver, se prévenir et traiter le diabète, pour savoir si vous êtes susceptible d'avoir du diabète, il suffit de faire une prise de sang et de gérer votre glycémie et votre hémoglobine glycosylée. Même si la glycémie est élevée, si l'hémoglobine glycosylée est normale, ça veut dire que génétiquement, vous n'êtes pas menacé. Mais ça veut dire que vous mangez beaucoup trop de sucre et qu'il va vous arriver des bricoles un jour ou l'autre à cause de l'augmentation de votre glycémie. Donc, vous vous mettez en danger. Mais vous n'êtes pas menacé génétiquement. Si en revanche, même avec une glycémie normale, vous avez une hémoglobine glyquée qui est même légèrement supérieure à la valeur normale, c'est-à-dire supérieure à 6, attention, il y a sûrement quelqu'un de diabétique dans votre famille et vous avez hérité de, vous avez fait son héritage et vous avez hérité de, d'une propension à avoir du diabète. Auquel cas, en vieillissant, conseil d'amis pour moi qui ai 75 ans et ça va très bien, soyez raisonnable et faites attention, là j'avais pris 2-3 kilos parce que j'avais un petit peu dérapé, je me suis dépêché de reperdre mes 3 kilos pour être presque aussi beau que toi mon fils. Parce que...
C'est pas le même genre de beauté quand même, docteur Delabou.
Pardon ?
C'est pas le même genre de beauté.
Mais tu es beau quand même, Philippe.
Oui, je sais.
Bon, tout le monde peut pas être aussi beau que moi.
Ceci n'a rien à voir avec cela. Avant, docteur Delabo, et pendant des années, on a parlé de diabète de type 1 et de diabète de type 2. Je connais même des médecins qui parlent de diabète de type 3.
Oui, moi.
Oui, bon.
En l'occurrence.
Docteur Delabo, est-ce qu'on guérit, c'était ma question, d'un diabète de type 1?
Non. On obtient une rémission, on peut obtenir une rémission spectaculaire, on peut même le faire disparaître, mais il est toujours derrière le rideau du théâtre.
La disparaître, ça ne veut pas dire guérir.
Non.
Dans le diabète de type 1, on a longtemps dit que le pancréas était fonctionné plus.
Alors, oui, c'est pas vrai, c'est pas exactement vrai. Je vois que tu as retenu ce que je t'ai raconté l'autre jour. C'est bien, mon Philippe. Est-ce que tu viens de dire dans mon bouquin que je t'ai donné il y a une demi-heure? C'est bien, mon Philippe. Tu as une mémoire extraordinaire et puis une organisation cérébrale que j'admire. Bon, j'arrête de te complimenter parce qu'on va plus te tenir.
Non.
En fait, pour parler très sérieusement, parce que c'est quand même une affaire très sérieuse, ces histoires de diabète, surtout qu'on peut en venir à bout, et c'est ça la très bonne nouvelle que j'apporte dans mon bouquin, même des diabètes avec des hémoglobines glyquées qui dépassent 10 unités, ce qui est énorme, j'ai vu des diabètes descendre et on peut les maîtriser. On ne les guérit pas, mais on les maîtrise. Et, comme tu le disais très justement, le pancréas n'est jamais complètement mort, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et quand on lui donne une dose d'insuline beaucoup trop forte, on va le mettre au repos complet. Tout comme quand on donne de l'extrait hypophysaire à quelqu'un qui a un problème de l'extrait de TSH, de l'extrait thyroïdien à quelqu'un qui a une thyroïde nodulaire, on va la mettre au repos. Mais elle n'est pas morte, heureusement d'ailleurs.
Parce que le diabète, c'est une maladie du pancréas.
Oui, que du pancréas.
C'est ça qu'il faut.
C'est le pancréas. Et le problème du diabète, c'est que le pancréas est... Malheureusement, le pancréas est une glande qui, contrairement au foie, ne peut pas grossir. Elle peut augmenter sa fabrication d'insuline et elle va. C'est la première phase d'un diabète, c'est quand le taux d'insuline augmente. Et les diabétologues parlent d'insulino-résistance. Bon, je ne vais pas dire de mal des diabétologues, mais c'est une erreur parce que c'est pas une insulino-résistance. C'est tout simplement une hypersécrétion insulinique parce que l'organisme a trop de sucre à l'intérieur, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que l'organisme récuse et se sert pas de son insuline. Ça veut dire que l'organisme aurait besoin, en fait, de manger moins de sucre pour avoir moins besoin d'insuline. Et on verrait à ce moment-là le taux d'insulinémie descendre, le pancréas retrouver un fonctionnement normal. C'est ce que j'obtiens dans des centaines de cas avec les gens ayant un diabète non insulino-dépendant et de surcharge.
Oui, parce qu'on a longtemps dit aux gens que finalement, une fois que le pancréas ne fonctionnait plus, il ne pouvait plus refonctionner.
Mais oui, mais c'est une erreur. Tout comme on a toujours dit que, à partir du moment où on prenait une statine, on s'était foutu, on était condamné à en prendre la vie entière. Tout ça parce que, tout simplement parce qu'on ne sait pas gérer la nutrition correctement. C'est ça le problème.
Le diabète, est-ce que c'est la maladie de ceux qui mangent forcément trop de sucre?
Oui. Pratiquement à tous les coups, c'est la maladie des gens qui mangent trop de sucre. Mais ça peut être aussi chez les jeunes enfants, des précédents, et ça mériterait des études en milieu hospitalier. J'attends toujours qu'un hospitalier intelligent, il doit bien en exister un, fasse équipe avec moi pour qu'on fasse des recherches. C'est très simple, je suis à peu près certain, mais il faut en apporter la preuve, que si on donne une alimentation lactée comprenant du lactose à une femme enceinte, son gamin a toutes les chances, si on peut appeler ça de la chance, de faire un diabète dans les années qui suivent sa naissance. Ça, c'est ce que j'appelle, et ça fait partie de la médecine que j'exerce maintenant, c'est une médecine préventive et prédictive. Ne faites pas ça, car il pourrait vous arriver telle chose. Tu vois, Philippe? C'est ne mangez pas des yaourts pendant votre grossesse, madame, et ne buvez pas de lait. Ça n'a, contrairement à ce que disent certaines gens, ça n'a jamais été bon pour le bébé. Au contraire, c'est une catastrophe. Parce que le bébé, il se construit pas avec du lait. Il se construit avec des protéines et des lipides. Il se construit avec ça. Les instruments, les outils pour construire un corps, ce sont les protéines et les lipides. Ce n'est pas le sucre. Le sucre, c'est fait pour la dépense d'énergie.
Bien, le docteur Delabo est en forme. Il répond à vos questions ce matin et on va consacrer une grande partie de ce mois au diabète puisque c'est une épidémie mondiale et qu'il faut combattre ce fléau. Il y a des familles qui sont impactées, qui sont touchées par ce fléau que le diabète.
Pendant que j'y pense, Philippe, j'ai juste, c'est très important. Je fais un grand bonjour, un salut et toutes mes amitiés aux gentils chauffeurs de bus qui écoutent Beurre FM sur ma ligne à Rouen et avec lequel j'ai discuté en rentrant chez moi. Je lui ai promis que je parlerai à lui. J'ai complètement oublié votre prénom, mais je me souviens de vous et vous êtes un
fils charmant. Si vous mangez plus de carottes, docteur Delabo, votre Alzheimer serait moins résistant.
Non, c'est pas une question d'Alzheimer. Et puis, je ne peux pas manger de carottes. Je suis pas comme les lapins, je prends mon temps, moi.
Mais c'est que c'est bon, les carottes pour la maladie d'Alzheimer. Allez, on parle du diabète, 01-53-48-3000, 01-53-48-3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes? Composez le 01 53 48 3000.
Enfin, je te tue.
Bien, le docteur Delabo, on parle du diabète. Hein. Prévenir et traiter le diabète grâce à la chrononutrition. Il vient de sortir aux éditions Albin Michel. Vous avez juste mis 10 ans pour l'écrire, mais bon, enfin voilà.
Je te signale à tous ceux et toutes celles qui voudront venir, ça me fera très plaisir de leur dédicacer un bouquin, que je fais des dédicaces au stand de Albin Michel au Salon du Livre de Paris.
Le 24 mars.
Bravo Philippe, de 18h à 19h30.
Est-ce que je suis bien?
Mais je suis dans le stand aussi Fortuna pour faire une dédicace de 14h30 à 17h.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Parce que je sais que là aussi, vous avez quand même beaucoup évolué dans votre approche du diabète ces dernières années.
C'est pas ça. C'est, si tu veux, d'abord, ce qui me manquait, parce que c'est quand même une maladie beaucoup moins fréquente que l'hypercholestérolémie, ça, des cholestérols, il y en a partout, surtout en Normandie, dans mon pays, dans ma région. Mais il me fallait suffisamment de gens que j'avais suivis et traités pour être certain de ce que je disais, que ça ne soit pas des hasards, mais la répétition des faits. Mmh. Je suis très cartésien et pragmatique, je ne conclus que si j'ai une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de cas. Mmh. Et le dernier cas référencé, c'était même 8 jours avant que le livre ne paraisse. J'ai eu à nouveau un cas qui est venu s'ajouter à la liste d'une dame qui était sous pompe à insuline et qui m'a dit fièrement, docteur, je n'ai plus besoin de ma pompe. Le diabétologue m'a enlevé ma pompe parce que je me permettrai jamais de faire ça. Je ne suis pas diabétologue. Je suis pas d'accord avec eux sur la façon de traiter, mais il n'empêche que c'est quand même leur spécialité et pas la mienne.
Direction Grenoble, docteur Delabo, et Anaïs nous appelle au 01 53 48 3000. Bienvenue Anaïs.
Oui, bonjour docteur.
Bonjour Anaïs.
Alors, je vous appelle en fait concernant les repas en général, parce que c'est vrai que bon, j'ai 2 enfants en bas âge, donc j'ai un enfant de 2 ans et demi et un bébé de 18 mois. Et le matin, mon enfant de 2 ans et demi, il mange des céréales le matin avec son bol de lait. Et vous savez que je donne des biscuits au goûter pour mon bébé de 18 mois. Donc je voulais savoir vraiment quels sont les repas, enfin, le repas idéal pour les enfants et puis pour les adultes aussi. Hein.
Alors,
viande.
Oui, bien sûr, mais il y a 2 nutritions différentes. Il y a celle des bébés jusqu'à 24 mois. Donc votre petit, le tout petit, il est sous une nutrition lactée, c'est normal. Vous commencez à l'habituer. Il faut que vous les ayez commencé, j'espère, à l'habituer d'abord aux légumes, puis aux féculents, puis à la viande. Il faut donc lui donner une nourriture de carnivore qui doit devenir totalement carnivore et sevré à partir de 24 mois. Donc à partir de 24 mois, c'est fini le lait, les yaourts, les laitages contenant du lactose, c'est le fromage le matin et le fromage le midi, et chez un bébé, c'est autant qu'il en veut. C'est la notion la plus pratique, c'est pas de lui dire faut telle quantité, c'est autant qu'il en veut. Quant à l'aîné, ça aurait dû être commencé déjà depuis un petit moment, mais c'est pas grave. Vous le mettez au fromage le matin, tous les fromages qu'il aime. Le mieux, c'est, alors, ça peut aussi bien. Alors, attention au fromage blanc déguisé, c'est-à-dire le Kiri et autres, qui sont des fromages où le carré frais Gervais, c'est délicieux, mais ça contient encore du lactose. L'idéal, c'est tout simplement, ça peut être tout simplement de la vache qui rit ou du Babybel, on s'en fiche, ce sont des fromages cuits, mais ça peut être n'importe quel autre fromage et vous aurez la surprise de découvrir que quelquefois les enfants adorent des fromages qui puent. On se demande comment ils font pour avaler ça.
Là on parle des fromages, mais je sais que sur les céréales par exemple, vous êtes pas réservé, mais vous conseillez pas les céréales
non,
le matin.
Non, parce qu'on les met dans du lait.
D'accord. Mais pour un enfant peut manger des céréales jusqu'à quel âge?
Il mange pas de céréales, il mange du pain à partir de 24 mois, il faut qu'on fasse passer.
D'accord. Donc même pour les enfants, pas de céréales.
Bien sûr, il faut arrêter les céréales parce que les céréales, elles sont avec du sucre. Donc, vous voyez, on entre vraiment déjà dans le attention à la possibilité d'un diabète. Si dans votre famille vous avez un diabétique, faites très attention, mettez vos enfants à l'abri, c'est très simple, pas de céréales, mais du pain qu'on peut tremper dans son thé, dans son infusion, dans tout ce qu'on voudra. On peut d'ailleurs donner aux enfants des boissons chaudes ou des boissons froides. Et du fromage avec sur le pain, de préférence de l'huile d'olive. Si c'est une huile d'olive de qualité, attention, pas une huile d'olive vierge costaud, parce que les enfants ne la supporteront pas. Ils ont un œsophage qui est fragile. Il faut une huile douce, c'est une huile jaune. Une huile du Maghreb, ou une huile de Haute-Provence, ou une huile de l'Italie du Sud, ou une huile sicilienne. Des huiles qui sont faciles, des huiles qui sont jaunes, pas des huiles vertes. Ça va permettre le matin, en faisant fromage, pain et huile d'olive dessus, et en donnant une boisson chaude ou froide, mais surtout pas de lait, s'il vous plaît, pas de chocolat au lait, alors c'est encore pire. Vous avez le midi la même alimentation que les adultes, sauf que l'enfant doit ajouter du fromage. Bon, c'est 20 grammes au moins depuis le sevrage de 2 ans jusqu'à ce qu'il mesure plus d'un mètre 20. Mmh. Et à partir de plus d'un mètre vingt, c'est au moins la hauteur en centimètres. Donc, on augmente de mois en mois, ça augmente assez vite, de façon à suivre l'évolution et la croissance. Et jusqu'à la fin de la croissance, c'est-à-dire jusqu'à 15-16 ans chez les filles et quelquefois 17-18-19 ans chez les garçons, on continue à manger du fromage le midi parce que c'est un aliment de croissance. Le fromage, pas le lait, pas les yaourts. Eux ne sont pas des aliments de croissance, ce sont des aliments et qui explose littéralement le corps de 0 à 24 mois, ce sont les fusées de départ de la fusée Ariane qu'on met sur les côtés et qu'on doit détacher au bout de 24 mois.
Alors Anaïs.
Bon, en fait, oui, c'est vrai que moi, mon fils, il prend un bon bol de lait le matin, donc il faut que je l'arrête le lait. Du coup, pas de yaourt, pas de lait.
Mais du fromage. Alors, il y a une astuce que vous pouvez faire, Anaïs, pour que ça lui paraisse agréable. Vous prenez un fromage, ça peut être, mettons, du Saint-Félicien, parce que c'est un fromage très doux, ou du Caprice des Dieux, c'est très doux. Vous le mixez vous le mettez au mixeur avec une grande cuillère à soupe de crème. Et vous allez voir, votre gamin, il va adorer ça. Parce que ça va avoir le goût d'un yaourt, mais c'est surtout pas du yaourt, c'est du fromage et de la crème. Et la crème ne contient pas non plus de lactose. Alors, de la crème épaisse, hein. Parce que la crème liquide, il y a du lait dedans. Alors que dans la crème épaisse, il n'y en a pas.
D'accord. Et du coup, attends, il faut que j'enlève complètement le lait, quoi. Même yaourt pour le goûter.
C'est pas une bonne idée. C'est franchement pas une bonne idée. Au goûter, un enfant, vous pouvez lui donner de la pâte d'amande, ça lui fera plaisir, c'est sucré comme tout, mais il y a aussi, vous pouvez lui donner des gras végétaux, vous pouvez aussi lui donner des fruits secs, lui donner des dattes, mais pas trop, n'exagérez pas les fruits secs non plus. Faites attention à ne pas sucrer un enfant, il faut les habituer à ne pas manger trop sucré. Parce que quand ils seront adultes, dès qu'ils ont un souci au truc, ils se mettront à bouffer du sucre en veux-tu en voilà, et ça, c'est hyper dangereux. Je pense à un de mes très bons amis, d'ailleurs, à qui j'ai offert un bouquin, que je ne nommerai pas, mais qui peut-être en parlera lui-même, parce qu'il est bavard comme tout, il est encore plus bavard que moi.
Et moi, par exemple, je prends le café et du lait. Alors, le mélange café au lait...
C'est pas du tout une bonne idée, ma chérie. C'est encore pire pour vous que pour vos enfants.
Pas pour les enfants, mais c'est vrai que pour moi, je prends un café au lait. Donc, on me dit soit du café, soit du thé, mais pas le mélange du lait et café.
Voilà. Jamais de lait dans le café.
Ceci dit, il y a un truc qui est bien meilleur hein, pour le café, si on aime le goût du café au lait.
Ah bah c'est de la crème le matin dans le café.
Vous mettez une cuillère de crème.
Une belle cuillère de crème dans le café.
C'est bien meilleur que le café au lait.
Ah bah c'est le vrai cappuccino des Italiens. Les cappuccinos, c'est pas du lait, contrairement à ce qu'on croit, c'est de la crème qu'on met dedans.
Et là, Anaïs a le droit.
Bien sûr, si c'est le matin, Anaïs. Après, c'est trop tard. Bon, à la rigueur, le midi, pour terminer le repas, parce que vous n'avez pas de cholestérol, vous avez l'air en forme. Donc, si vous prenez un cappuccino le midi, un vrai avec de la vraie crème, oui. Mais après, c'est fini.
La crème épaisse, c'est pas la crème liquide, du coup, vu qu'il y a du lait.
Non, parce que la crème liquide, il y a du lait dedans, alors c'est triché.
Mais ça a le même goût, hein, c'est même meilleur. Hein.
Ah, le lait, la crème entière, c'est bien meilleur.
Non, mais le café avec
avec de la crème,
oui,
c'est délicieux.
De crème, c'est,
On met pas de sucre avec, hein, surtout. Hein.
Merci Anaïs.
Bonne journée Anaïs.
Assina est avec nous et Assina nous appelle d'Ivry-sur-Seine. Bienvenue Assina.
On se rapproche.
Merci. Bonjour Philippe.
Bonjour Assina.
Bonjour monsieur le cartésien pragmatique.
Et donc,
je vois que vous m'écoutez depuis le début Assina, bonjour.
Ah, tout le temps. Tout le temps. Donc, moi, j'ai un diabète type 2. Mon hémoglobine glycée est à 6,7.
Oui.
Et j'ai un peu de cholestérol.
Vous êtes en surpoids?
Non, pas du tout. Je suis.
Vous pesez combien?
Je pèse 59 kilos.
Et vous mesurez?
1,57 m.
Donc vous avez un diabète constitutionnel. C'est pas de votre faute, c'est pas vous qui l'avez créé. Vous avez un diabète génétique, ma puce. Bon.
Génétique, mais personne dans ma famille.
Ah oui, mais alors ça peut remonter à 3 générations.
Oui.
Alors ça, c'est, on peut pas savoir. Hein. Ah, si vous voulez, on peut affirmer que c'est génétique à partir du moment où, n'étant pas en surpoids, vous avez des troubles métaboliques.
D'accord.
Or, vous avez. Et est-ce que vous avez trop de triglycérides aussi?
Non.
Non. Donc c'est bien. Alors vous avez pas de peau. Moi j'ai une hypertriglycéridémie mixte, c'est-à-dire que c'est diabète, cholestérol et triglycérides. Vous avez juste cholestérol et triglycérides. C'est ce que j'explique dans mon bouquin, c'est qu'il y a diverses apparitions, diverses formes,
oui.
Diverses combinaisons du. Alors il y a sûrement, si vous voulez, on peut vous mettre en rémission permanente jusqu'à la fin de vos jours. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais il va falloir que vous soyez aussi raisonnable que moi, parce que je fais très attention, j'ai aucune envie de perdre la vie, et vous avez l'air très jeune en plus, donc faites attention, il y a vraiment des précautions à prendre. Là je peux pas vous expliquer tout le bouquin parce que ça serait assez long, mais vous avez des précautions à prendre, il y a des aliments vraiment à éviter, mais contrairement à ce que pourrait penser tout le monde, c'est beaucoup plus facile de faire un programme anti-diabète qu'un programme anti-cholestérol. Et dans votre cas, je vous dis bienvenue dans le club, ma chérie, parce que je suis obligé de faire attention sur les deux plans, c'est-à-dire ne surtout pas exagérer les sucres et supprimer des aliments pour protéger du cholestérol. Et ça, c'est plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut enlever.
C'est vrai que j'ai abusé du fromage, j'en raffole.
Alors?
Donc, ma triglycéride est de 1,25.
Non, elle est tout à fait bien, votre triglycéride. C'est entre 0,50 et 1,50, les triglycérides. Quand je dis une hypertriglycérémie, c'est 7 grammes, hein, c'est pas...
C'est et ça. Mon cholestérol HDL est de 1,26.
1,26 millimol ou 1,26 grammes?
Millimol.
Ah oui, parce que c'est des millimoles, mais c'est en grammes, moi, que je calcule. En millimol, c'est pas assez.
Grammes, c'est 0,49.
Oui, c'est ça. Et le HDL, le LDL, il est à combien?
À 3,55.
Combien?
1,37.
Oui, c'est ça. Vous avez, alors que vous êtes en tout à fait en poids, tout à fait normal, vous avez cette fameuse hypercholestérolémie. Alors dites donc, c'est embêtant pour vous, il va falloir vous acheter mes deux bouquins, celui pour le cholestérol et celui pour le diabète. Ah, c'est une affaire qui marche.
Problème.
Ben venez me voir, vous êtes à Ivry, venez me voir au salon le vendredi 24.
Oui, je voulais acheter votre livre sur une grande surface, mais je ne l'ai pas trouvé.
Non, mais il n'est pas encore sorti sur le diabète, il vient juste de sortir hier.
J'ai été voir ça.
Et certaines grandes surfaces ne l'ont pas encore. Ils l'auront dans 15 jours, dans 3 semaines, quand ils verront que c'est un bouquin intéressant. Non, mais vous pouvez venir au salon le 24. Je ferai les signatures de 18h à 19h30 et ça me fera très plaisir de vous le signer.
Est-ce que je peux l'acheter sur place, non?
Ah oui, bien sûr. Bah, évidemment.
Je l'achèterai sur place.
Oui, je vais leur dire d'avoir des bouquins pour le cholestérol aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà. À mon avis, que ça va intéresser, et je vous le dis à tous et à toutes, parce que quand on a le double, c'est fréquent d'avoir le double problème, hein, puisque moi, c'est la même chose. Donc, à vous voir, parce que là, vous m'entendez, mais j'aimerais
voilà,
vous voir.
Et quand on parle du salon, c'est pas le salon du docteur Delabo dans sa maison, non, c'est le salon du livre.
Très drôle.
Port de Versailles, c'est ça.
Non, vous êtes Porte de Versailles ou c'est
oui, toujours Porte de Versailles.
C'est Porte de Versailles, le salon du livre.
C'est Porte de Versailles.
Porte de Versailles.
Paris, c'est le salon de Paris, c'est pas le salon de Versailles.
Bien. Porte de Versailles à Paris.
Je vous embrasse.
Mais moi de même, j'aurai plaisir à vous voir.
Et vous pourrez embrasser le doc en vrai.
Merci.
Alors,
ça, c'est vrai. Ça me ferait plaisir que Philippe soit là.
Je serai là pour porter les livres, docteur Delaney.
Je vous entends depuis des années, mais J'imagine un peu.
Alors,
mais
écoute,
j'aime beaucoup votre voix.
Alors, continuez à m'imaginer parce que j'ai un physique de radio, comme on dit. Donc, c'est plus.
Alors,
c'est plus simple.
Alors, je vous rassure. Ma femme m'a toujours dit que Philippe était très beau. Et comme c'est une femme de goût, puisqu'elle me trouve très beau aussi, vous aurez deux beaux mecs pour vous.
Ouais. Allez, on arrête les violons. Merci à Sylvain. On vous fait un gros bisou. Et le docteur Delabo répond à vos questions dans un instant. On parle du diabète. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes? Composez le 01 53 48 3000.
Voilà, vous avez un nouveau bébé, docteur Delabo. Il s'appelle Prévenir et traiter le diabète grâce à la chrononutrition aux éditions Albin Michel. Il y avait Prévenir aussi, pas le diabète, mais...
Prévenir et traiter le cholestérol.
Le cholestérol grâce à la
chrononutrition. Ce sont les deux bouquins sur le métabolisme, les deux premiers bouquins sur le métabolisme, et il y en aura beaucoup d'autres.
Bien, est-ce que vous pouvez répondre simplement à cette question, docteur Delabo? Comment est-ce qu'on devient diabétique?
En mangeant trop de sucre.
C'est tout?
C'est tout.
Mais est-ce que forcément, si on mange trop de sucre, on devient diabétique?
Non, il y a des gens qui ont la chance d'avoir un pancréas plus gros que les autres et qui ne deviennent pas diabétiques. Mais si on mange trop de sucre, on a 99% de devenir diabétique en vieillissant. D'ailleurs, on voit apparaître souvent les diabètes à partir au moment de la retraite. Tout comme on voit des diabètes apparaître à la fin du ramadan.
Ça peut être une maladie de l'âge, en fait.
Tout comme on voit de l'âge, non, pas forcément, c'est des erreurs alimentaires. Et l'âge aggrave les erreurs alimentaires. C'est pas l'âge qui rend le pancréas plus fragile, c'est l'âge qui aggrave. Tout comme à la fin du ramadan, on voit des diabètes. Tout comme certaines femmes font des diabètes gestationnels parce qu'elles mangent très mal, parce qu'on leur a souvent dit, oh, mais faut que tu boives du lait, c'est bon pour le bébé, faut que tu manges du yaourt, c'est une catastrophe. Et elles font des diabètes gestationnels.
Le diabète, ça concerne tous les sucres?
Hélas, oui. Que ça soit du fructose, du saccharose ou du glucose, c'est pareil pour tout. Et les faux sucres, malheureusement, induisent le diabète parce qu'ils poussent le pancréas à réclamer du sucre. Et du coup, on s'oriente vers des vrais.
C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va prendre des
faux sucres qu'on va se sauver la vie.
Un Coca Zéro ou un Light?
Non, c'est encore pire.
Ou de la Stevia?
C'est encore pire.
Pourquoi?
Ben parce qu'on induit, on envoie un faux message au pancréas. Il y a peu de temps qu'on s'est rendu compte de ça. Moi, ça fait des années que je le dis, mais ça amuse beaucoup mon ami, le docteur Damou, que vous entendez de temps en temps avec nous, qui me dit l'autre jour, il me montre un article et me dit « Ah ben dis donc, ils deviennent intelligents, ça fait quand même 15 ans que tu l'as dit, ça !» J'étais plié de rire. Il me dit « Mais c'est incroyable, c'est quelque chose de formidable. Bon, »
Comment est-ce qu'il... vous expliquez, docteur Delabo, qui est actuellement... encore autant de diabète qui ne soit pas diagnostiqué.
Attends, c'est pire que ça. Il y a de plus en plus de diabètes qui ne sont pas diagnostiqués. Parce qu'autrefois, les diabètes étaient assez exceptionnels, parce que l'alimentation était beaucoup mieux équilibrée qu'elle ne l'est maintenant. Il n'y avait pas l'industrie agroalimentaire pour nous bourrer le mou et raconter énormément de bêtises et bourrer de sucre tous les aliments. Et il y avait une alimentation qui était une alimentation naturelle. Donc, on ne voyait apparaître vraiment des diabètes que chez les gros, et des gros il n'y en avait pas beaucoup, les très gros, les obèses, et on le voyait apparaître quelquefois chez des gens maigres, et cette fois c'était un diabète génétique, malheureusement, ça c'est autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, l'augmentation du diabète est directement liée aux modifications de l'alimentation, soit temporaire pendant le ramadan, soit temporaire pendant la grossesse, et dans ces deux cas-là, ça peut disparaître après.
Mais vous êtes en train de nous expliquer que pendant 30 jours, c'est-à-dire que il faut 30 jours pour attraper un diabète?
Non, il faut 30 jours pour qu'un diabète latent devienne patent.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même déjà un terrain.
Un diabète.
Voilà, il y a quand même un terrain.
Bah, il y a des gens qui mangent pas très très bien toute l'année et qui sont à la limite, si tu veux, quand une hémoglobine glyquée, un diabète et une glycémie correcte, et puis qui pendant 30 jours vont avaler. Il faut voir, j'ai regardé une fois la quantité, on a fait un AID, on en a fait plusieurs ici. Bah attends, moi je peux pas, je peux me gaver de toute la viande qu'il y a dans l'AID, mais si je m'amuse à manger les desserts, les sucres, j'ai 2 grammes de diabète.
C'était pas des AID, c'était des ruptures de jeûne.
Oui, c'était des ruptures
des repas
Rien que le repas de rupture de jeûne, c'est déjà pour moi, c'est déjà tu vois, je considère même ça comme un aïd, alors que, comme je l'explique dans mon bouquin sur le ramadan, la rupture de jeûne, ça doit pas être un aïd tous les soirs, parce que c'est l'équivalent d'un aïd tel qu'on mange.
Quel est le moyen de...
Se supposer, le pire, c'est que c'est bon, alors je me gave.
Bah, c'est le drame,
c'est que c'est bon.
Et c'est pour ça que les gens mangent.
Ben oui, mais faut éviter.
Comment on dépiste un diabète, docteur Delaboue? Quels sont les examens?
L'examen est très simple, glycémie et hémoglobine glycosylée. Alors, ça ne sert à rien de faire une glycémie sans faire une hémoglobine glycosylée, parce qu'on ne peut pas savoir si c'est un diabète ou une simple surcharge en sucre. Donc, si on vous dit, ah ben votre glycémie est bien, ça va très bien, ça ne veut rien dire. Quelqu'un, par exemple, qui se sent pas bien, mais enfin, il y a des signes qui sont quand même pathognomoniques, c'est-à-dire où le médecin est obligé de faire attention, des malaises, des sueurs, des sensations bizarres, des palpitations quelquefois. Bon, on fait une prise de sang et on voit une hyperglycémie carabinée ou quelquefois des crises d'hypo si on est en phase prédiabétique, c'est-à-dire en phase d'hyperinsulinémie, c'est-à-dire que le pancréas fait trop bien son boulot pour compenser et qu'il en fait trop, quoi. Il en rajoute. Donc, il donne trop d'insuline, si bien que c'est souvent la phase qui précède un diabète. C'est-à-dire, les prédiabètes, paradoxalement, on a une glycémie basse, mais on a une hémoglobine qui est chargée. Ça veut dire, attention, là, on est en pleine déroute. Si on continue comme ça, c'est la cata.
La phase de prédiabète, elle peut durer combien de temps?
On peut être en prédiabète très longtemps. Si tu veux, tant qu'on n'a pas flingué son pancréas, tant qu'on ne lui a pas fait baisser les bras, on peut être en prédiabète pendant des mois ou des années sans s'en rendre compte. Et je fais énormément de diagnostics de prédiabète, de diabète ou de petit diabète. Je ne veux pas dire de diabète, de troubles métaboliques qui incitent à dire attendez, arrêtez vos bêtises, parce que quand vous aurez 60 ans, là vous êtes cuit, vous êtes bon pour les piqûres.
Donc ce qui veut dire que quand on est en phase de prédiabète, on peut ne pas rentrer.
On peut très bien ne pas rentrer dans la phase diabétique. C'est prévenir le diabète.
C'est ça que vous appelez la prévention.
C'est la prévention du diabète, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à cette maman. C'est quand on a un enfant qui a 24 mois, si on arrête de lui donner du lait et des laitages contenant du lactose, on va le protéger d'un diabète potentiel. Si on arrête de lui donner des flocons d'avoine ou autres, des pétales de machin, et surtout le maïs, c'est encore pire. On va le protéger d'une surconsommation, enfin d'une suractivité de son pancréas. On va laisser son pancréas fonctionner correctement. Alors la différence entre quelqu'un qui exagère les gras et qui a le foie se met à grossir, alors que le pancréas lui grossira pas. Mais on va l'abîmer encore plus vite. Le foie va grossir pour que ses cellules puissent assurer un maximum de travail, et il va donc pardonner beaucoup de choses. Alors tout simplement parce que nous sommes des animaux carnivores. C'est pour ça que quand on me parle de dire que l'être humain est végétarien, qu'il pourrait même être végétalien, ça me fait hurler. Bon, pour la bonne raison qu'on peut très bien gérer tout ce qui est animal avec un foie qui est capable de grossir, mais on ne pourra pas gérer éternellement un problème de sucre, parce que le pancréas est incapable de grossir. Or, le sucre, la plupart des sucres sont d'origine végétale ou contenus dans les végétaux. Le sucre, il y en a énormément dans le riz, il y en a énormément dans les pâtes, il y en a aussi dans les pommes de terre. Il y en a dans le manioc. Je discutais sur RFI, tu sais, j'ai fait une émission sur RFI il n'y a pas longtemps, et on discutait de ça avec Stéphane Besançon, qui est un type charmant d'ailleurs, et qui s'occupe du diabète en Afrique et au Mali, et au Congo aussi. Et on a discuté, et puis également en Côte d'Ivoire, c'était amusant parce que j'ai une élève en Côte d'Ivoire. Donc, on a vu la prévalence des diabètes, elle est liée à la surconsommation par les populations de plantes qui contiennent trop de sucre si on mange que ça. Et le gros problème à résoudre là-bas, et là-dessus, on a d'ailleurs discuté de Jean-Louis Borloo à ce sujet-là, parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Moi, je suis vachement ravi de ce qu'il fait. Il faut qu'on arrive à mettre de la lumière, qu'avec la lumière, on puisse refaire de l'agriculture, qu'avec l'agriculture, on puisse refaire de l'élevage, et qu'en faisant de l'élevage, on arrive à rendre les gens suffisamment carnivore. C'est tout un protocole, il y en a pour une génération.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont diabétiques finalement sans le savoir et qui ne déclenchent jamais de diabète?
Non, il y a des gens qui sans le savoir sont porteurs sont génétiquement propices à faire un diabète, c'est ce qu'on appelle les diabètes latents, mais qui n'auront jamais de diabète patent parce qu'ils font jamais de bêtises. Quelqu'un qui boit pas d'alcool, qui se gare pas de pain à tous les repas, qui mange pas de dessert, qui a horreur des desserts, il y a des gens qui ont horreur des desserts, qui aiment pas les biscuits ni les et encore moins les bonbons, il est à l'abri. Et Je vais te dire, j'ai découvert que j'étais malheureusement sujet à un hypercholestérolémie, une hypertriglycéridémie mixte, quand j'ai pris 30 kilos.
Attention, vous tapez sur le
Oh pardon, sur je le tape bureau. Sur la table.
Voilà, et c'est, j'arrête pas de vous faire des signes et vous comprenez pas.
Non, je
vous
comprenais pas. Je croyais que ma braguette était ouverte.
Mais non, c'est juste parce que vous êtes en train de... Et je vous aurais pas dit...
Excuse-moi, Philippe. Mais...
Bien, docteur Delabo, quels sont les symptômes qui pourraient alerter les personnes qui nous écoutent et qui sont soit, alors, qui souffrent soit d'un prédiabète ou d'un diabète?
Des sensations de mal-être, des sensations, c'est... La plupart des gens qui viennent me consulter et qui ont des troubles métaboliques avérés, que ça soit cholestérol, diabète ou autre, viennent me voir, c'est amusant, en me disant « Oh, je me sens pas bien, faut que je sois mieux, je suis trop gros, je suis trop ci ou je suis trop ça. » Il y en a quelques fois, ils sont pas très gros, qui me disent « Je suis pas bien. » Et ma copine ou mon ci ou mon ça m'a dit « Écoute, va le voir parce que il va savoir te soigner. » Il fait de la médecine, lui. Alors, ce qui me fait toujours plaisir quand on me dit ça. Bah oui, parce que je fais de la médecine, c'est pas du grossissage ou du maigrissage, j'en ai rien à foutre.
D'accord, mais alors donc, une sensation de mal-être, mais alors, mal-être...
Et ils viennent pour être plus beaux, et en fait, quand on fait, je fais toujours un bilan très complet, et on trouve soit du cholestérol, soit du diabète, soit quelquefois les deux.
Vous faites un bilan biologique, mais
encore
une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ne soupçonnent même pas qu'ils sont atteints d'un diabète, qui savent pas pourquoi ça va pas bien. Mais est-ce qu'il y a des signes plus précis?
Non, le
parce
diabète.
Que tout à l'heure vous parliez de palpitations, de sueur.
Ça, c'est quand on est arrivé à un stade diabétique avéré, si tu veux, où malheureusement il y a une hémoglobine glyquée qui a grimpé. Il m'est arrivé de voir des hémoglobines glyquées à 6,5 ou 7 ou même 8. Alors qu'il y avait strictement aucun signe clinique, la personne se sentait pas, ça allait bien. À l'inverse, j'ai vu encore hier, et d'ailleurs je l'ai beaucoup fait rire en disant c'est dégueulasse, c'est absolument dégueulasse. Elle a dit mais qu'est-ce qui est dégueulasse docteur? J'ai dit, vous pesez 135 kilos, vous avez un cholestérol de rêve, vous avez une glycémie de rêve, si j'étais aussi gros vous je serais mort moi. C'est pas juste. Alors il rigolait bien sûr.
Donc
c'est pas obligé.
C'est pas obligé.
Ça dépend de la qualité. Si tu veux, j'ai tout mis, mais dans ma famille, on met tout dans le cerveau et on a un peu négligé le reste. Ça doit être ça, tu vois.
Mais on avait une auditrice tout à l'heure qui n'était pas en surpoids du tout.
Non. Hein, finalement. Et c'était le cas classique, typique du diabète, de l'hyper. Alors, elle m'a dit, mais j'ai pas de parents. Ça veut rien dire. C'est malheureusement.
Donc, il n'y a pas forcément de symptômes précis, vous voyez, qui pourraient pousser les gens à aller consulter.
Pour le diabète, non. C'est très trop possible le diabète. C'est pour ça que il faut quand on est, si tu veux, si on reste dans le même poids, la même façon de vivre, qu'on n'a pas de problème, on fait un bilan, le bilan biologique que je conseille pour le diabète et pour n'importe quelle personne, qu'elle soit en bonne santé ou pas, on fait un bilan complet. Si après on bouge plus du tout, on n'a pas besoin de le refaire avant 10 ans ou 20 ans. Ce qu'on devrait faire, ce bilan que je conseille, on devrait systématiquement le faire quand il y a un changement de vie important.
Comme quoi, par exemple, le cœur de labo?
Que ce soit un divorce, que ce soit le décès de quelqu'un qu'on aime, que ce soit... excuse-moi, j'ai encore tapé sur la table, excusez-moi, ça fait du bruit. Que ce soit, donc, je disais un divorce, que ce soit la retraite prise brutalement. Alors, soit c'est une retraite agréable, soit elle l'est pas, mais dans les deux cas, de toute façon, si par malheur...
C'est une modification du changement de vie. Ouais.
Voilà. Toute modification du changement ou toute grosse émotion peut déclencher des troubles importants du point de vue métabolique. Il n'y a pas que le diabète, ça peut déclencher aussi une hypercholestérolémie, ça peut aussi déclencher des hypertensions ou des hypotensions chroniques, ou une dépression, c'est une maladie métabolique, la dépression. Oui, ça peut surprendre, mais la dépression, les psychiatres soignent la dépression avec des antidépresseurs, moi je soigne la dépression avec des aliments, et ça marche très très bien.
Ça
aide du moins considérablement bien les médicaments psychotropes.
Quels seraient les dangers de ne pas être dépisté du diabète?
Ce qui est ennuyeux, ce n'est pas une question de danger, c'est une question de mise en danger. Je m'explique. Ce qui est dangereux dans le fait d'ignorer qu'on est peut-être porteur d'un diabète, c'est qu'on ne va pas prendre de précautions. Donc, on ne va pas prévenir le diabète. C'est pour ça que je dis dans mon bouquin, faites donc tous, quoi que vous ayez, faites un prélèvement de sang complet de ce que je vous ai dit, et vous verrez bien si oui ou non, il faut que vous fassiez attention. D'autre part, si vous avez un parent qui a du diabète, que ce soit papa, maman, ou un tonton, ou une tata, ou un cousin, ou si, etc., vous devez faire attention à ne pas faire n'importe quoi, parce que ça peut vous tomber dessus. Donc, faut faire attention.
Même si c'est un diabète dans la famille de quelqu'un qui est lié, enfin, qui l'a eu tardivement.
Ça veut rien dire. Ça veut dire, ben, parce que quelqu'un peut très bien l'avoir. En général, malheureusement, l'état s'aggrave d'année en année. Il faut savoir que nous avons maintenant, nous n'avons plus la sélection naturelle chez l'être humain qui se produit chez les animaux. Vous savez que chez les animaux, si un bébé n'est pas normal, la mère le bouffe, elle le tue. C'est un réflexe de nature, et Dieu sait pourtant que les animaux adorent leurs enfants et qu'ils les élèvent, et il faut voir comment se comporte une mère mammifère avec ses gamins, c'est marrant. Que ça soit un dauphin, un loup ou un ours, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je vous conseille pas d'approcher d'un ours quand il a son petit, parce que d'une ours, parce que... elle bouffe tout ce qui passe. Hein.
Donc, il n'y a pas plus de danger que ça, finalement.
Non, il faut pas s'affoler. Il faut simplement être prudent, c'est tout. C'est exactement comme mettre sa ceinture de sécurité. On met sa ceinture de sécurité. Vous avez remarqué qu'on se sent à poil quand on n'a plus sa ceinture maintenant ? C'est rigolo, hein ?
Docteur Delabo, est-ce que ça veut dire que les personnes qui se découvrent diabétiques ne vont plus jamais manger de sucre ?
Non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. C'est pas comme ça, parce que ça serait ça, c'est la punition à vie. C'est pas comme ça. On va continuer à manger des sucres, mais pas en n'importe quelle quantité, pas à n'importe quel moment, et pas n'importe quel sucre. C'est dans le bouquin, c'est ce que j'explique. J'explique dans le livre que si vous avez un début de diabète parce que vous êtes en surcharge et que vous mangez mal, il suffit que vous mangiez chrono comme tout le monde pour que ça disparaisse. C'est quand même la très très bonne nouvelle, ça. Je mange comme tout le monde et je n'ai aucun souci, ni d'hémoglobine glycée, ni de glycémie, parce que je mange la chrono normale, bien faite. C'est tout. Et ça me protège aussi du cholestérol parce que j'ai ajouté, malheureusement pour moi, ça c'est moins marrant, le régime anti-cholestérol.
Allez, votre livre vient de sortir, Docteur Delabo, il est sorti cette semaine, Prévenir et traiter le diabète grâce à la chrononutrition aux éditions Albin Michel. Un livre important, en tout cas pour tous ceux qui sont concernés. Il y a beaucoup de familles qui sont concernées par le diabète. Donc l'éditeur, c'est Albin Michel. Je rappelle que vous serez donc en dédicace au Salon du Livre de Paris, donc le vendredi 24 mars à 18h, Docteur Delabo. Et que demain, je vous donne rendez-vous avec l'imam Abdelali Mamoun pour l'islam au présent. Donc si Fouzia nous écoute, ça y est, j'ai le livre de l'imam pour demain, et Maître Serran et le chef Voilà seront également là. Merci d'avoir été avec nous, passez une très belle journée sur Beurre FM.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h sur Beurre FM.